Attention, attention, le podcast des petites frousses contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bonjour, bienvenue aux petites frousses, ici Joanie en compagnie de Grégory.
Salut tout le monde.
Bonjour, bonjour. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un familicide qui s'est déroulé en 1987 aux États-Unis. La famille en question était la famille Dardeen. Personne n'a été jugé, condamné, ni même arrêté pour le massacre. Donc, il s'agit de meurtres irrésolus. Mes sources aujourd'hui sont St. Louis Post, STLToday.com, Daily Mail, puis le Chicago Tribune. Je vais faire une mise en garde pour abus et meurtres d'enfants, agression sexuelle, pédophilie et possibilité de crimes haineux.
OK, ça commence bien.
En 1986, la famille Dardeen a quitté une ville nommée Mount Carmel en Pennsylvanie pour s'établir dans un petit village nommé Ina en Illinois. La famille Dardeen était constituée de 3 personnes. Il y avait le père Russell Keith Dardeen, âgé de 29 ans, la mère Ruby Ellen Dardeen, âgée de 30 ans. Les parents aimaient mieux se faire référer par leur nom Keith et Ellen seulement. Puis il y avait aussi leur fils Peter, de 2 ans. Comme je disais, c'était un petit village, mais de dire petit village, c'est presque généreux parce que c'était pas gros. En 1980, Ina comptait 460 habitants et habitantes.
OK, c'est pas grand-chose, là.
Pas grand-chose. En 2020, il y avait 1641 habitants, puis je pense que le plus qu'il y a eu, c'est 2000.
OK. C'est vraiment un village-village. C'est un petit village.
Tout petit village. Dans les années 80, on pouvait tout de même y retrouver des commerces essentiels, comme une station d'essence, un bureau de poste, une banque, une caserne de pompiers, puis il y avait une lumière de circulation. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, puis où la caissière de l'épicerie, du marché, devait poser aisément des questions déplacées sur la vie personnelle et amoureuse des clients pendant qu'ils payaient leur pain de lait.
Mm-hmm.
Le couple Keith et Ellen se sont acheté une petite maison mobile beige et blanche à Ina, puis ils ont loué un terrain dans un parc à maison mobile. La rue devant leur maison était la route 37, qui était et qui est encore très passante aujourd'hui. Puis en plus de ça, il y avait une voie ferrée derrière la route.
Fait que c'est fucking bruyant dans le fond.
Oui, aussi. En plus d'être passant, c'était full bruyant.
Ouais.
Ben c'est l'un vient avec l'autre normalement là. Fallait qu'ils dorment sûrement avec des bouchons, j'ose croire. La maison mobile n'était pas très spacieuse parce que Keith, Ellen et Peter dormaient dans le même lit. Il n'y avait pas le choix.
Les trois
ensemble.
Okay.
C'était un matelas d'eau en passant.
Oh, c'est old school, un matelas d'eau.
Oh, c'est les années 80, baby.
Ben oui, c'est clair.
Mais c'est, si un bougeait, l'autre devait flong, flong, flong. En tout cas, je n'ai jamais passé une nuit dans un lit d'eau. Je mets ça sur ma bucket list.
C'est pas bon pour le dos, ça.
Faut dire aussi que la famille Dardeen n'était pas aisée financièrement. Keith travaillait comme opérateur dans une station d'épuration. Puis Ellen avait un emploi chez Staples à Mount Vernon. Mount, j'ai de la misère avec ce mot-là. Mais c'était un village voisin d'Ina. Puis Staples, c'est une chaîne de magasins qui se spécialise dans la vente de matériel de bureau. Si tu veux des beaux stylos, c'est là que tu les prends.
Au Québec, ça s'appelle bureau en gros.
Oui. Malgré leurs difficultés financières, le couple Dardeen faisait leur possible pour économiser de l'argent pour les études de Peter. Même s'il avait juste 2 ans, ils prenaient de l'avance.
Ben c'est bon, ça. Plutôt mieux c'est.
Exactement. C'était quelque chose de prioritaire pour eux. Ce qui fait du sens.
Mm-hmm.
Puis Keith faisait quelque chose d'assez intense pour contribuer à ce fonds. Il achetait de la liqueur ou des breuvages pétillants, puis il les revendait à ses collègues à la station d'épuration, puis il mettait les profits de côté pour les études de Peter.
C'est un petit side hustle.
Le couple était croyant et faisait partie de la troupe musicale de l'église. Ellen jouait du piano et Keith chantait à travers sa moustache, parce qu'il y avait vraiment une moustache volumineuse.
Okay.
Je vais mettre des photos du couple, mais de la famille au complet. Puis Keith a pas l'air d'un gars de 29 ans, là. C'est quand même spécial parce qu'il a de l'air d'avoir 20 ans de plus que Greg, qui a exactement le même âge que Peter.
Tout est dans moustache.
En 1987, Ellen est tombée enceinte. Elle et Keith étaient vraiment comblés à l'idée d'ajouter un nouveau membre à leur famille. Ils avaient déjà choisi des noms. Casey pour une fille et Ian pour un garçon.
Mmh.
La famille Dardeen a bien évidemment réalisé qu'avec un nouvel enfant, la maison mobile ne suffirait pas en termes d'espace. C'était déjà trop petit pour 3. Mais ouais. Ajouter un enfant là-dedans, ça comme c'est absurde. Là.
Ça fait pas de sens.
Absolument pas. Ils se sont mis à considérer un déménagement et possiblement retourner à Mount Carmel, l'endroit d'où ils venaient avant d'habiter à Ina. Puis aussi, c'était l'endroit où Keith avait grandi. Donc, tu sais.
Il y avait déjà de la famille, probablement.
Ouais, son père à lui, Don Dardeen, habitait encore à Mount Carmel. La mère de Keith, Joanne Dardeen, a aussi dit que son fils lui avait dit regretter d'avoir quitté Mount Carmel en premier lieu. Il était prêt à retourner là-bas auprès de sa famille, de ses parents, même s'il se trouvait pas d'emploi là immédiatement.
OK.
Il était prêt à faire ce sacrifice-là. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi beaucoup de violence dans le coin et dans le comté de Jefferson en général, où se trouvait le village Ina. C'était pas faux, il y avait effectivement une bonne vague de violence. Il y aurait eu 15 homicides en 2 ans, dont quelques-uns d'irrésolus. Puis c'est pas très rassurant pour un couple qui fonde sa famille avec un, t'sais, avec un bébé en route, un enfant de 2 ans. Je vais vous citer quelques-uns des homicides qui ont eu lieu. En 1985, 2 ans plus tôt, à Mount Vernon, qui est le village voisin d'Ina où Hélène travaillait, un garçon de 18 ans nommé Thomas Odell a tué ses parents, Robert et Caroline, puis ses 2 frères, Sean, 13 ans, et Scott, 10 ans, puis sa sœur Robin, 14 ans. Je vais faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé avec Thomas selon une entrevue qu'il a faite avec le Daily Mail en 2013. Thomas aurait pris du LSD pendant qu'il était seul à la maison avec son père, Robert. Il a ensuite poignardé son père à l'aide d'un couteau de boucher. Il a attendu que sa mère, Caroline, revienne à la maison. Thomas l'a attaqué, l'a poignardé dans le cou. Il a conclu le massacre en assassinant sa sœur Robin et ses frères, Sean et Scott. Thomas a été arrêté peu de temps après. Il a initialement été condamné à mort, mais sa peine a été réduite en 2003 pour prison à vue. Je ne sais pas si c'est considéré comme réduite, là, mais...
Ben, c'est peut-être un changement de loi là-bas ou quoi?
Non, ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je sais pas si c'est considéré... Je sais qu'il y a un terme pour ce changement de peine. Mais c'est pas une affaire de changement de loi. Outre ce drame, il y a eu un tueur en série qui a sévi dans le comté. Il y a eu un garçon de 15 ans qui a tué son voisin de 11 ans, Martin Howling, durant sa partie de Donjons et Dragons. À Inomheim, il y aurait eu le viol et meurtre d'une jeune fille de 10 ans en 1987, dans la même période durant laquelle la famille Dardeen y habitait.
Fait que ça brasse là-bas, là.
Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est une petite communauté. Mettons, dans le village même d'Ina, c'est sûr que là...
Bon, le ratio de monde, de population versus les crimes violents, c'est quand même
mais
c'est haut, là.
Ils se sont pas tous passés à Ina, par exemple.
Ouais.
C'est dans le comté.
Mais dans le comté, pareil, ouais.
Mais reste que les gens du coin étaient craintifs. Les habitants et les habitantes d'Ina et des villages avoisinants vivaient dans la peur, puis la peur, ça se partage. Fait qu'évidemment que ça a fini par affecter la famille Dardeen, surtout qui venait juste d'arriver à Ina.
Mm-hmm.
Avec toutes ces histoires morbides qui se produisaient de gauche à droite, Keith est venu de plus en plus protecteur envers sa femme Hélène et leur jeune fils Peter, puis évidemment le bébé à venir. Graduellement, Keith est devenu encore plus méfiant. Un soir, une jeune femme est venue cogner à la porte de la maison mobile en disant avoir besoin d'utiliser le téléphone. Elle demandait à Keith si elle pouvait rentrer dans la maison et utiliser le leur. Keith a refusé. Ça peut sonner étrange comme requête. Aujourd'hui, on a tous nos cellulaires puis on se débrouille. Mais dans les années 80, si ton auto décidait de te lâcher sur la route, mettons la route 37 qui était en face de la maison mobile, t'étais mal pris. Fallait que tu fasses du porte-à-porte pour peut-être trouver un bon samaritain. Dans le cas de la famille Dardeen, on n'a pas les informations de pourquoi cette femme voulait entrer pour utiliser le téléphone. Dans tous les cas, personnellement, je comprends la décision de Keith. Parce que moi, aujourd'hui, si quelqu'un quand même apporte... pour avoir de l'aide, je ne le laisse pas entrer chez moi. C'est hors de question.
Surtout avec la vague de crimes qu'il y avait.
Oui.
Tu sais, ça fait peur. Ça veut pas rentrer n'importe qui chez vous, là.
Oui, mais je pense que s'il n'y avait pas eu la vague de crimes, qu'il te l'aurait laissé entrer.
Probablement.
Mais avec ça, il a dit non, là. Parce qu'il savait que, comme je disais, t'étais vraiment mal pris. Tandis qu'aujourd'hui, je sais que la personne n'est pas mal pris. T'es supposé avoir un cellulaire ou même des fois, il y en a qui ont de l'aide directement dans leur voiture. Puis, je comprends, Keith, parce que moi, je vais même pas ouvrir la porte pour mon livreur d'Uber Eats. Je demande de laisser ma bouffe dehors, puis j'attends qu'il est parti pour aller la chercher. Pas de parano, mais je sais que je suis pas la seule. Plus ou moins 1 an après leur arrivée à Ina, la famille Dardeen a pris officiellement la décision de mettre leur humble demeure à vendre. Leur but était de quitter Ina et le comté de Jefferson pour janvier 1989.
Ils ont dû peut-être voir ça comme un échec, je sais pas.
Oui, puis tu sais, c'est dommage parce qu'il avait quand même créé des liens avec des gens là-bas. Il allait au party d'Halloween d'une femme nommée Claudia Johnson à chaque année. Mais en fond, c'était 2 Halloween qui avaient été là. Puis les 2 années, il avait gagné le meilleur costume.
Oh.
Fait qu'il y avait des amis. C'était pas une question de « on sent pas à notre place » ou quelque chose comme ça. Là.
Ouais,
c'était vraiment...
puis on est seul, puis il y a pas personne d'autre pour...
Oui, parce que des fois, ça peut être long de se créer une place à travers une communauté, surtout quand c'est une communauté petite. Mais eux, ils avaient fait leur place. Les gens n'avaient rien de mauvais à dire sur eux. Ils avaient des amis. Fait que... La priorité numéro 1, c'était la sécurité de la famille. Puis c'est pour cette raison-là qu'ils ont tranché à « on doit quitter Ina, se rapprocher de notre famille. » Puis aussi, c'est plus facile d'avoir des grands-parents proches pour t'aider. Là. N'importe qui est parent peut témoigner de ça, j'imagine. Mais quand t'es complètement tout seul dans un village, que là, t'es plus capable de faire confiance vraiment à personne parce que tu sais jamais, puis tout. Je comprends. Je comprends tout à fait la décision.
Ça peut déteindre sur l'enfant aussi, là, sur oui. les enfants. Fait que, ouais, c'est une bonne ouais. décision, je pense, qu'ils ont pris.
Ouais. Le 18 novembre 1987, Keith Dardine ne s'est pas présenté à son travail. C'était pas son genre de s'absenter sans prévenir son supérieur. Keith avait la réputation d'être un employé fiable à la station d'épuration. Immédiatement alerté, son supérieur a téléphoné à la maison des Dardine. Aucune réponse. Le superviseur de Keith a tenté de le rejoindre à plusieurs reprises tout au long de la journée. Ses tentatives ont servi à rien. Personne n'a jamais répondu. Le superviseur a décidé de contacter les parents de Keith, savoir s'il aurait pu être au courant de quoi que ce soit. Ni la mère ni le père de Keith n'avaient eu de nouvelles de leur fils, ni d'Hélène d'ailleurs. La situation est devenue inquiétante et, préoccupés par l'appel du superviseur, les parents de Keith ont décidé d'aviser la police dans le but qu'une vérification soit faite. Puisque le père de Keith, Don Dardine, avait un double des clés de la maison, il a décidé de joindre la police à la demeure de son fils, si jamais ça pouvait être utile. Le père de Keith habitait à Mount Carmel, on se souvient, à environ une heure de route d'Ina. À 18h30, toujours le 18 novembre, un agent de police et Don Dardine se sont rejoints à la maison mobile de Keith et Hélène. Ils ont remarqué que le camion du couple était stationné dans la cour, mais pas leur Plymouth 1981. Une petite auto de deux portes, faite par Chrysler. Ils ont cogné à la porte avant, aucune réponse. Le père de Keith et le policier se sont dirigés à l'arrière, même chose, aucune réponse. De l'extérieur, ils pouvaient voir que l'intérieur de la maison mobile était plongé dans le noir. Le policier a allumé sa lampe de poche et l'a pointé à travers l'une des fenêtres et il a pu entrevoir des personnes dans le lit, sous les couvertures. Le policier a cogné encore une fois, aucun mouvement sous les couvertures. Le policier a essayé la poignée de la porte arrière et, surprise, elle était déverrouillée. Ce qui a été découvert dans cette maison-là est grotesque. J'ai pas d'autres mots. C'est pas juste horrible, Préparez-vous. Je vous avertis maintenant parce que c'est très graphique.
OK.
Ce que le policier avait aperçu dans le lit, de l'extérieur, étaient trois membres de la famille Dardine et ils étaient décédés. Il y avait les corps d'Hélène et le jeune Peter. Du ruban adhésif avait été placé sur leur bouche. Hélène et Peter avaient été ligotés. Ils avaient été placés sur une chaise, puis battus à mort avec un bat de baseball que Peter avait reçu de la part de son père pour son anniversaire.
Ouf.
Hélène et Peter avaient le crâne fracturé. J'ai bien dit qu'il y avait trois personnes dans l'île des Dardine. Au moment du meurtre, Hélène était enceinte de 7 mois et demi. Et son attaque a déclenché son accouchement.
Oh non!
On ne sait pas si Hélène était déjà décédée quand elle a accouché, ou si elle était en vie, si elle était consciente. Elle a donné naissance à une petite fille. Et le tueur n'a pas épargné Casey. Ça, c'est le nom qu'il avait choisi dans le cas qu'il y avait une petite fille. Je n'irai pas dans les détails de ce qui s'est passé avec Casey, mais la personne responsable de l'attaque, elle a
Elle l'a pas épargné.
Elle l'a pas laissé... Tu sais, ouais.
Horrible.
Quand tout ça a été fait, Hélène, Peter et Casey ont été placés dans le lit, sous les couvertures. Le père de Keith, qui est à l'extérieur, devait paniquer noir, là.
Imagines-tu?
J'espère qu'il a pas entré. C'était pas mentionné, mais j'espère qu'il n'a pas pénétré la maison, sachant que ses petits-enfants puis sa bru étaient décédés à l'intérieur.
Horrible.
Puis, son garçon, à lui, est où? Parce que Keith était marqué. La scène de crime était marquée par l'absence de Keith. Il est où Keith?
Ben oui.
Donc évidemment, Keith Dardine est devenu le premier suspect de l'affaire. Il n'y avait aucun signe de lui. Sa voiture n'était pas là. Il avait l'air d'un gars qui avait pris la fuite après avoir commis des meurtres.
Ben tout pointe là-dessus, là. C'était l'air d'un crime, ouais.
Une chasse à l'homme a été lancée pendant que la scène de crime était examinée. Fait que là, je vais parler de la scène de crime. Elle aurait été nettoyée par l'individu responsable des meurtres, selon le Chicago Tribune, mais pas bien nettoyée. C'était plus comme rapido, lico, let's go. Je nettoie ça vite, un peu botché, puis je m'en vais. Il n'y avait aucun signe d'infraction. L'argent qui se trouvait sur place n'avait pas été pris. Même chose pour les objets de valeur qui étaient à portée de main, comme des bijoux, une caméra vidéo puis un lecteur de cassette. Dans le temps,
Ouais, ça coûtait cher.
Ça solidifiait la possibilité que Keith Dardine était responsable du meurtre de sa femme et de ses enfants. Dans l'optique qu'il arrive parfois que des fugitifs se cachent chez un proche ou chez un membre de leur famille, des policiers armés se sont rendus chez la mère de Keith, Joanne Dardine. D'autres policiers se sont rendus au Colorado chez l'un de ses amis de longue date, Kevin Davis, dans l'espoir de trouver Keith. Ils ont dû faire un esti de saut parce que premièrement, des policiers armés chez vous, tu deviens jambe molle. Deuxièmement, apprendre que ton fils ou ami est recherché. Troisièmement, parce qu'il aurait peut-être tué sa femme et ses enfants.
Aïe, aïe.
Parce que, en tout cas, à moins que Don Dardine avait appelé sa femme entre-temps, ce que j'en doute très fort, là, Keith était chez ni l'un ni l'autre. Ça fait que ça n'a pas donné grand-chose. Il était introuvable. Le 19 novembre 1987, vers 17h50, le lendemain de la découverte macabre dans la maison mobile des Dardine, un groupe de chasseurs ont découvert un corps dans un champ de maïs. Il s'agissait de Keith Dardine. Il a été retrouvé à environ 1 km de sa maison mobile. Puis là, moi, ma première impression, quand je faisais mes recherches puis que j'étais rendue à « Oh mon Dieu, ils ont trouvé Keith », je me suis dit « C'est clair qu'il s'est suicidé. »
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est fréquent dans les familicides que...
Il passe à l'acte, puis après ça, il s'enlève la vie.
Exactement. Mm-hmm. Mais non, c'était pas le cas. Il avait bel et bien été abattu par balle, mais c'est pas une possibilité que c'était un suicide. Je vous explique pourquoi. On lui avait tiré une fois dans la poitrine, puis trois fois dans la tête. Dans son crâne, sur le côté droit de son visage, puis dans sa joue gauche.
Ouais, tu peux pas te faire ça tout seul.
Bon, tu vas pas tirer parce que deux fois tout seul, en général.
Mm-hmm.
J'ai lu que son pénis avait été retiré. Aucun moyen de savoir si la mutilation s'est produite avant ou après la mort, mais après lui avoir enlevé le pénis, on lui aurait placé dans la bouche.
Ouais. C'était pour humilier le corps, dans le fond?
Moi, c'est ce que je pense, là. Mais il y a une grosse parenthèse qu'il faut que je mette ici parce qu'il y a un article du St. Louis Post publié le 21 novembre 1987. Le coroner qui aurait effectué l'autopsie, Dr. Richard Garretson, a nié le fait que Keith avait été castré. Moi, ça me pousse à me demander si le coroner jouait pas sur les mots. Parce que moi, notre chat est castré, mais il a juste subi une ablation des testicules. Alors là, je me demande... je vous avouerais que ma recherche sur la définition précise de la castration a été très en surface, parce que ça me tentait pas de voir les images, là. Mais je pense qu'il a délibérément menti. Des fois, c'est pour protéger la communauté. Il dit non, c'est pas ça qui est arrivé, parce qu'ils savent qu'anyway, ce détail-là...
Comme tu dis, il a peut-être juste joué avec les mots.
Ouais.
C'est pas fait castré, mais... Il s'est fait mutiler ses parties génitales, genre.
Ouais, dans l'article, il a vraiment dit qu'il ne s'est pas fait castrer, c'est tout. Il a pas été dans d'autres détails par rapport à ça. Je pense aussi que c'était considéré à la violence. Il a gardé ça mort. Aussi, dans le même article, il a précisé que Hélène avait bel et bien accouché. T'sais, le tueur l'aurait pas ouverte puis okay. Retiré le bébé, en passant.
Okay, okay.
Parenthèse. Mais je pense que le coroner a menti ou le journaliste s'est trompé, qu'il y a quelque chose qui se produit. Parce que Joanne Dardine s'est fait poser des questions par les policiers en lien avec l'orientation sexuelle de son fils Keith à cause des mutilations génitales qu'il avait subies. Je vais revenir après par rapport à ça, à l'orientation sexuelle de Keith, là. Mais la mère s'est fait demander des questions à cause des mutilations, donc okay. Il y en a bel et bien eu.
Mais qui, ouais, c'est ça. Qui dit quoi?
Qui dit quoi, puis tu sais.
Ouais.
Les policiers ont fouillé les alentours d'où Keith avait été trouvé. Ils se sont promenés dans les villages autour d'Ina pour retracer la voiture Plymouth Rouge. Ils l'ont finalement trouvé stationné devant un poste de police, à environ 18 km au sud de la maison mobile des Dardine.
OK.
Ça prend du culot en tabarouette pour un tueur de se promener avec l'automobile de ta victime, d'aller le stationner dans une station de police. Ça m'épate. Puis t'sais, l'intérieur de la voiture avait tellement de sang, là, c'était plein d'éclaboussures de sang, puis tout porte à croire qu'il avait été abattu dans la voiture, Keith.
Okay. À cause des éclaboussures,
oui,
justement.
Oui, à cause des éclaboussures, puis c'est aussi ce que pense le médecin de famille improvisé coroner, Dr. Richard Garretson. Tout porte à croire que Keith avait été abattu dans la voiture, puis transporté à l'endroit où il a été trouvé par les chasseurs. Puis après ça, ils ont été se débarrasser de la voiture à 18 km de distance. L'arme avec laquelle Keith a été assassiné n'a jamais été retrouvée. L'autopsie n'a pas pu préciser exactement qui avait été tué en premier. Keith serait décédé environ 24 à 36 heures avant d'être retrouvé. Hélène, Peter et Casey, 12 heures avant d'être retrouvés. Ça indique que les meurtres auraient eu lieu la nuit, ce qui ferait du sens parce que la route devant leur maison était très passante.
Ouais.
Puis si les meurtres étaient faits en plein jour, il y aurait possiblement des témoins. Mais encore là, c'est pas impossible. Mais considérant l'heure qu'ils ont donnée, la période de temps qu'ils ont donnée, ça donne la nuit.
C'est plus plausible.
Ouais. Le médecin légiste a pu conclure qu'Hélène Dardine n'avait pas été agressée sexuellement. Rapidement, l'histoire du massacre de la famille Dardine s'est répandue à Ina et dans les villages voisins. La panique s'est installée à travers une communauté déjà méfiante. Un crime comme celui-là a juste amplifié leurs craintes à un autre niveau. Les gens se disaient « Je connais peut-être la personne qui a fait ça à la famille Dardine. »
Ben, rendu là, tu sais, c'est une petite communauté, tu dois capoter.
Ben
là.
Oui, puis ça se peut aussi que la personne qui a fait ça, elle venait pas de là, là, mais reste qu'il y a quand même la possibilité que oui. Fait que tu mets un petit village de moins de 500 personnes, mais là, c'est sûr que le doute s'amplifie. Les gens qui habitaient à Ina avaient l'habitude d'être accueillants envers les autres, avec leurs voisins, sont devenus froids et distants entre eux. Une employée du marché d'Ina, nommée Marie Unger, a dit « Désormais, plus personne n'est amical, tout le monde est conscient de son environnement. La vente d'armes à feu et de systèmes de sécurité a augmenté drastiquement. Les habitants et les habitantes s'organisaient pour montrer qu'ils étaient armés. Ouais. Qu'il y avait de quoi pour se défendre si jamais il arrivait quoi que ce soit. On parle d'un village où les gens ne verrouillaient même pas leurs portes, malgré la violence qui était déjà présente dans le comté. Après ce qui est arrivé aux Dardine, ils ont commencé à verrouiller leurs portes.
Ouais, le monde a fait un 180 sur leur, leur manière de se sécuriser.
Ouais, c'était comme la goutte de trop, ça frôlait l'hystérie, leur affaire. Dr. Richardson, qui était médecin de famille à la base, a vu un grand nombre de ses patients et patientes en panique. Il se faisait raconter par ses patients et patientes que ça les avait grandement troublés, puis avec raison. Un patient du Dr. Richardson, qui habitait près de la maison mobile des Dardine, a raconté qu'il y avait énormément de difficultés à dormir, puis qu'il avait perdu 14 livres parce qu'il était trop sous de gros nerfs.
Ouais.
D'autres dormaient avec la lumière allumée. Ça devait être cerné le matin, ce monde-là. C'est de l'hystérie collective aussi, à un moment donné.
Ben oui.
Mais tu sais, je comprends tellement. Là, moi, je viens d'un petit village, d'une petite communauté. On était encore bien plus qu'à Enol. On était 4000, 6000, je sais plus trop, là. Mais il est arrivé des meurtres bien avant que je naisse. Puis on en parlait encore comme si ça allait d'arriver, puis on vivait encore dans peur. Puis on parlait encore du fait que la secte de Roque-Moïse Thériault avait été en arrière du village d'où je venais. Comme si c'était encore un fait, là, tu sais, on avait encore peur, on avait encore la méfiance, on ne barrait pas nos portes.
Ouais, mais ça marquait pareil, mais tu sais, c'est ça, t'sais, vous n'étiez pas rendu à barrer vos portes, à vous armer nécessairement, non. Là, tu sais. Mais ça doit être quelque chose.
Parce que mon père a 8 guns.
Oui, mais c'est de la chasse, ça, c'est pas pareil.
Il chasse pas, il pêche, en tout cas. Faites-le pas chier. Mais ça reste que, malgré tout ça, qu'on est encore marqué par les choses terribles qui étaient arrivées dans ma région, une plus grosse région, on barrait pas nos portes. Sauf la nuit. En tout cas, chez nous, je sais pas pour le voisin, mais chez nous, c'était juste la nuit. Mais eux étaient rendus à un stade vraiment plus avancé, puis je les comprends. Ça doit être tellement terrible, mais le coroner du comté de Franklin, un comté aux alentours, Dr. Robert Lewis, il a offert son opinion sur la situation en disant au journal St. Louis Post, je cite, « Les gens se font peur entre eux. Ils sont tellement terrifiés que si l'un autre tombait en panne d'essence dans le comté, ils ne chercheraient pas de l'aide dans les maisons voisines, mais ils marcheraient plutôt jusqu'à la prochaine autoroute. » Les proches de la famille Dardine ainsi que les habitants-habitantes d'Ina étaient dévastés par les meurtres. Les Dardine semblaient être appréciés de tous ceux qui l'entouraient, même s'ils se connaissaient moins. Ce qui rongeait les résidents et les résidentes d'Ina était le fait d'ignorer qui était l'individu responsable du massacre de la famille Dardine.
Ben oui, c'est ça qui fait peur, là. Ouais, pas savoir c'est qui, là.
Avant d'explorer les théories, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en penses, Greg. As-tu des petites théories toi-même?
Moi, ce qui me sonne un peu une alarme, ce qui me fait poser des questions, c'est, tu sais, pourquoi Keith n'était pas avec le reste de sa famille? Puis pourquoi il voulait partir de Ina aussi rapidement que ça, sachant qu'il n'y avait pas de nouvel emploi à son ancien village, d'où ce que c'est pas, où ce que sa famille vient? Fait que ça aussi, je trouve ça spécial, là, mais dis-moi en plus.
Bien, c'est sûr que, je viens de penser pendant que tu te dis, c'est sûr qu'il était pressé peut-être dans le temps parce que...
Le bébé s'en venait.
Le bébé s'en venait, mais en même temps, il voulait déménager. Dans le fond, il est décédé en novembre, puis il voulait être parti pour janvier. Mais elle allait déjà avoir... C'est sûr qu'elle aurait déjà eu à coucher ses déménageants en janvier. Ce qui est bizarre, c'est que malgré leurs difficultés financières, ça ne dérangeait pas de retourner à Mount Carmel, d'où il venait, même s'il n'y avait pas d'emploi là-bas. Alors, pour ce qui est des théories, une trentaine d'enquêteurs avaient été placés à temps plein pour travailler sur l'affaire de la famille Dardine. Au total, 100 personnes ont été interrogées et plus de 1000 pistes ont été explorées. Je vais vous en citer quelques-unes dans les théories. Donc, la première, ça doit être dite, mais on s'éternisera pas longtemps parce que c'est déjà, ça a déjà été démenti.
OK.
Le meurtre serait la triste conclusion d'un vol qui aurait mal tourné. Un des facteurs qui va dans ce sens-là, c'est que les meurtres d'Hélène, Peter et Casey ne semblent pas avoir été prémédités. Parce que l'arme utilisée pour les tuer, c'est-à-dire...
La balle de baseball.
Il avait été retrouvé là-bas. C'est comme s'il arrivait pour faire un vol, pouf, il était là-bas, fait que là, ils ont pris n'importe quoi pour éliminer les témoins, mettons. D'un autre côté, Keith, lui, a été abattu avec une arme à feu qui n'était pas la leur. Puis pourquoi, si c'est un vol qui a mal tourné, pourquoi Keith a été tué ailleurs? Ça fait pas de sens.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu trop compliqué, entre guillemets, pour être un vol, à mon avis. Puis aussi, c'est comme impossible de dire que c'est un vol qui a mal tourné quand Il n'y a pas eu de vol.
Ben, c'est ça. Ça ne fait pas de sens parce que tout est resté là. Les bijoux, l'argent, t'sais, tout, là.
Ouais, ouais. Puis, il n'y a pas de signe d'infraction dans la maison. La violence, encore une fois, à mon avis, est un peu trop intense pour que ce soit une question de « je me débarrasse des témoins ».
Ben, c'est personnel en maudit, là.
Ouais. Ah ouais, je suis tout à fait du même avis que toi, là. Prochaine théorie. Il y a eu des rumeurs que les meurtres avaient été commis dans le cadre d'un rituel satanique. Cette théorie a été rapidement écartée, mais on va quand même l'explorer un peu. Un policier expert sur les sectes a déclaré au journal St. Louis Post que normalement un rituel satanique laisse des traces. Comme par exemple, les membres vont mutiler les corps et y graver des symboles. Bon, ouais. Oui, Keith a eu des mutilations, mais il n'y a pas eu de symbole qui a été retrouvé sur lui, à moins que ça n'a pas été mentionné dans les journaux.
Ça se peut, ça aussi.
Ça se peut, c'est possible. Mais ça a quand même été rayé de la liste par les autorités. Il y a aussi le fait que, selon l'expert, toujours expert sur les sectes, des bougies ou de la cire vont être retrouvées sur les lieux du crime ou des organes vont être prélevés. C'était pas le cas nécessairement avec la famille Dardine, à part la mutilation de Keith. Puis aussi, je suis peut-être un peu trop dans le cliché hollywoodien des sacrifices sataniques et compagnie, là, mais il me semble que ça se fait pas seul. Tu sais, même s'il était deux personnes, mettons.
Moi, dans ma tête à moi, l'image que j'ai, c'est des personnes avec des petits...
Des toges.
Moi, c'est des personnes avec des toges qui se rassemblent pour faire ça, mais tu sais, c'est vraiment juste une image que j'ai dans ma tête, là. Sûrement à cause d'Hollywood, comme tu dis.
Ouais. Mais c'est plus, moi, j'imagine un groupe de personnes. J'imagine genre 5, 10 personnes faire un rituel. Fait que je vois pas 10 personnes, même 5, entrer dans la maison mobile.
Non.
On dirait que ça fit pas, mais ça se peut que c'est un gros cliché. Puis aussi, un crime satanique peut être souvent attribué de manière aléatoire. Dans le fond, les personnes qui vont tuer vont être aléatoires. Mais dans le cas de la famille Dardine, là, ça a bien trop l'air personnel.
Effectivement, là.
Fait que c'est vraiment seul hic, mais je le cite pareil, ça l'a été, mais ça a été démenti.
OK.
Encore une autre théorie de démenti. La prochaine théorie, c'est là qu'on déballe plus de stock.
La troisième.
Il existe plusieurs théories qui circulent qui ont toutes la même base. C'est-à-dire que Keith est la cause de ce qui lui est arrivé à lui et à sa famille. Fait qu'en gros, la théorie, c'est que c'est de la faute à Keith.
OK.
Pour plusieurs raisons. Durant la fouille de la maison mobile, les policiers ont trouvé une petite quantité de marijuana. En 1987, trouver la laitue du démon chez quelqu'un, c'est incriminant. Ça pouvait dire que tu faisais des affaires louches avec du monde louche. Heureusement, de nos jours, on n'a plus ces préjugés-là. Il y a encore des gens qui les ont, par contre. Mais la possession de marijuana a été attribuée à Keith. Et les potins du village se sont envenimés. Puis là, c'était rendu qu'ils vendaient de la drogue, puis qu'ils devaient de l'argent à quelqu'un. Puis c'est pour ça qu'ils étaient séparés du reste de la famille lors du meurtre. Nanani, nanana. Il y a même du monde qui pense aussi que le tueur aurait mis le pot-là pour brouiller les cartes. Des grosses affaires. Aussi, sur la même théorie où Keith est fautif, les policiers ont trouvé des piles de papier avec des scores sportifs annotés. Donc, ils pensent que peut-être Keith faisait des gages sur des scores puis s'était mis dans les dettes.
OK.
C'est peut-être vrai, c'est peut-être la raison pourquoi il y avait des difficultés financières, mais ça veut pas dire que c'est pour ça qu'il s'est fait tuer.
Ouais.
Mais reste que ça ressemble quand même à un règlement de compte. Il y a aussi la théorie que Keith avait une double vie et qu'il avait un amant, qu'il était homosexuel comme les autorités ont mentionné à sa mère. Je vois pas trop le rapport, genre, ça veut-tu dire que c'est son amant qui l'a tué parce que son pénis a été enlevé? Ben, c'est sûr que oui. Ce qui a vraiment mené les policiers, les enquêteurs, vers cette piste-là, c'est que les mutilations génitales peuvent avoir une connotation sexuelle. Mais pour le tueur, ça n'a aucun rapport avec la victime.
Ouais.
Ça se peut que je me trompe, mais je vois pas en quoi c'est quoi le rapport que Keith sera homosexuel. Je vois aucun lien avec ça, puis ça, c'est de la stigmatisation des années 80, là, excusez-les, mais c'est ça que c'est. Une chose étrange, par contre, c'est que Keith avait l'air d'avoir peur de quelque chose. Quand il parlait avec sa mère devant le téléphone, la conversation finissait toujours par se diriger vers les meurtres du coin. Est-ce qu'inconsciemment, il savait ce qui allait lui arriver? Sa mère a dit dans des entrevues que quelque chose chicotait son fils depuis quelque temps. Le propriétaire du terrain sur lequel était la maison mobile des Dardine, son nom c'est Lloyd Settle. Il a déclaré au St. Louis Post qu'un an plus tôt, Keith lui avait raconté avoir eu un problème avec un collègue à la station d'épuration, mais que c'était pas quelque chose de grave. Fait que ça se peut que ce soit ça. Mais encore là, les pistes ont été explorées, ça n'a rien donné. Reste que pour moi, la raison pourquoi les membres de la famille Dardine se sont fait tuer, c'est pas de la faute à Keith, c'est la faute de l'individu ou des individus qui les ont tués. faire une grosse théorie puis une grosse histoire comme quoi c'est de la faute à Kate, puis c'est la partie de Kate, c'est la partie du tueur. Merci, bonsoir. Mais comme t'as dit, Greg, ça reste pourquoi il a pas eu le même sort que les autres. Pourquoi lui, il a été abattu par balle. En vrai, sa mort a été plus rapide.
Ouais, puis pourquoi il était séparé, pourquoi?
Pourquoi, puis pourquoi il y a eu une fin aussi humiliante?
Il y avait de la rancœur là-dedans ou de quoi, là?
Ouais.
On dirait, du moins.
Ouais. Mais on sait pas. Peut-être qu'il y a question d'une ex, d'une amératrice secrète. Il y a une petite partie de moi qui se demande si les autorités ont pas focusé seulement sur un préjugé puis qui ont passé à côté de l'éventualité que la personne responsable était une femme.
Ouais. Ça se peut.
Peut-être que c'était un amant d'Hélène. Mais dans ce cas-là, je pense qu'elle aurait été agressée sexuellement. Peut-être que l'assaillant était un amant d'Hélène. Pourquoi un amant absolument de Keith? Mais en même temps, je pense que si ça avait été un amant d'Hélène, elle aurait été agressée sexuellement. En même temps, tu sais, l'autopsie a été faite par un médecin légiste qui a dit que Keith n'a pas été castré.
Ouais, là, il est-tu compétent, tu sais?
Mais c'est un médecin de famille à la base, lui. Ce qui arrive souvent dans les petits villages, c'est pas sa spécialité. Encore là, ça reste un corps humain et puis il travaille là-dessus. Mais moi, j'imagine mal mon docteur de famille faire ça. En tout cas, n'est pas. C'est ça la théorie. Je pense qu'il y a clairement quelque chose qui explique pourquoi Keith est séparé, mais c'est pas la raison qu'on pense. C'est pas de quoi d'aussi extravagant que il y avait un amant caché, puis c'est pour ça qu'il voulait partir, puis tout.
Ouais.
Peut-être qu'il voulait partir pour protéger sa femme aussi.
Ben, pour protéger sa famille au complet.
Ben, ça, hein. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un dans les parages qui tannait sa femme.
Peut-être.
Puis il dit, faut partir, être enceinte. Prochaine théorie.
La quatrième.
Pendant des décennies, la police n'avait aucun suspect dans l'affaire du massacre de la famille Dardeen, jusqu'à ce qu'un tueur en série, déjà en prison, a avoué avoir commis les meurtres. Le tueur en série était nul autre que Tommy Lynn Sells. Il a été accusé de pédophilie, de viol, de nécrophilie et de meurtre. Il a été arrêté le 2 janvier 2000 au Texas. Je vais vous parler un peu de lui, question de bien saisir le personnage et sa supposée connexion avec les Dardeen. Tommy Lynn Sells est né à Oakland, en Californie, le 28 juin 1964. Il n'a pas grandi dans un environnement très sain. À l'âge de 7 ans, il a commencé à consommer de l'alcool. À l'âge de 9 ans, il a été agressé par un homme sous le consentement de sa mère. À 10 ans, il prenait de la drogue, de la cocaïne. À 13 ans, il a décidé de se mettre tout nu puis de se faufiler dans le lit de sa grand-mère. Après cet incident, Tommy Lynn a été banni de la maison et très peu de temps après, sa mère, ses frères et ses sœurs sont déménagés. Il s'est ramassé dans la rue.
Pas chic.
À partir de là, il s'est mis à commettre des crimes, des vols, des agressions sexuelles. Il aurait commis son premier meurtre à l'âge de 15 ans. En mai 1981, il a renoué avec sa famille. Mais ça s'est vite terminé après que Tommy Lynn se soit déshabillé et a essayé de rejoindre sa mère dans la douche. Le 2 janvier 1989, comme j'ai dit plus tôt, Tommy Lynn Sells a été arrêté pour le meurtre de Kaylin Harris, âgée de 13 ans, et pour la tentative de meurtre de l'amie de Kaylin, nommée Crystal Surless. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Puis elle avait 10 ans. Tommy Lynn Sells a tranché la gorge de Crystal avec un couteau de 12 pouces, mais elle a survécu.
Ouf!
Elle a coopéré avec la police pour faire un portrait robot de lui. Une fois en prison, Tommy Lynn a dit avoir commis 70 meurtres à travers les États-Unis. Les autorités ont seulement pu lui attribuer 22 meurtres, faute de preuves.
Oui, seulement.
Seulement. On s'entend? Son modus operandi, comme ceux qui savent de quoi qui parlent disent, c'est qu'il n'en avait pas. Tommy Lynn se promenait à travers les États-Unis et il choisissait ses victimes aléatoirement. Il aimait s'attaquer à des couples, il préférait les femmes, les adolescentes et les jeunes filles. Le mot pour décrire ce type de paraphilie-là, c'est hébéphile. Mais souvent, on va dire... Dès que quelqu'un est en bas du temps, on va dire pédophile, mais en vrai, il y a 3 termes.
Okay.
Et là, j'ai googlé ça, j'étais très mal à l'aise et j'ai peur que le FBI vienne me chercher. Tommy Lynn a été reconnu coupable le 18 septembre 2000 et a été condamné à mort. Tommy Lynn utilisait n'importe quelle arme, un couteau pour poignarder ou trancher la gorge, une arme à feu, il pouvait étrangler ou battre ses victimes à mort avec un bat de baseball.
Okay.
Si Tommy Lynn s'attaquait à un couple et qu'un enfant était présent, il tuait l'enfant. Fait que là, on commence à avoir des petites corrélations entre les meurtres qu'il commettait et celui des Dardeen.
Ouais.
Après son incarcération, plusieurs enquêteurs de plusieurs états différents sont entrés en contact avec Tommy Lynn dans le but de résoudre des cold cases. Et c'est là qu'il aurait confessé avoir commis les meurtres de la famille Dardeen. Tommy Lynn, c'était quelqu'un qui aimait beurrer épais. Il était reconnu pour exagérer ses histoires, puis il a même admis en avoir inventé certaines. Gardez bien ça en tête. Il existe trois versions de comment Tommy Lynn s'est rentré en contact avec la famille Dardeen. 1. Tommy Lynn a raconté qu'en 1987, quand il avait 22 ans, 23 ans, il faisait du pouce de l'autostop près de Ina. Et Keith l'aurait embarqué dans sa voiture. Il l'aurait invité à prendre un repas à la maison mobile. Deuxième version. Là, ça a fini par changer, puis là, il disait finalement qu'il aurait rencontré Keith dans un salon de billard et que Keith l'aurait invité chez eux et que Keith, Hélène et Tommy Lynn auraient couché ensemble les trois. Troisième version. Tommy Lynn aurait vu la pancarte à vendre devant la maison des Dardeen et aurait cogné à la porte. Il se serait fait passer pour un potentiel acheteur et une fois à l'intérieur de la maison mobile, il serait passé à l'acte.
Ça, c'est tout des trucs qui viennent de lui?
Oui. C'est trois histoires différentes qui viennent de lui, là. Okay. Ça vient de sa bouche. Il les a pas dit d'une traite, là. Il les a dit, c'est plusieurs entrevues parce que ça se passe pas... En tout cas, ces histoires sont contradictoires, mais dans une des versions de Tommy Lynn Sells, il disait que Keith lui aurait fait des avances sexuelles et que ça lui aurait fait perdre la tête, mais dans une autre version, il aurait fait un trip à trois. C'est déjà là, oh, ça fonctionne pas, c'est pas très cohérent. Il a dit aussi que le fait de voir que Keith, Hélène et Peter dormaient dans le même lit avait été l'élément déclencheur qui a mené au meurtre, parce que ça lui avait rappelé quand il était plus jeune avec sa propre mère, quand sa mère avait donné son consentement, avait laissé un homme coucher avec son fils. Premièrement, Tommy n'avait pas besoin d'éléments déclencheurs pour tuer. Déjà là, on peut effacer ça. Pour revenir à l'histoire de Trip à trois, la mère de Keith, Joanne Dardeen, a dit que c'était impossible que son fils ait eu une aventure sexuelle de ce genre. Je doute fortement qu'une mère discute de ça avec un fils.
Ouais.
Mais je doute encore plus de ce que Tommy Lynn a dit. Tu sais, une baise à trois avec une femme enceinte de 7 mois.
Ça fait pas vraiment de sens, ça.
Elle peut faire ce qu'elle veut, mais c'est moins probable.
C'est ça.
Regarde. On se souvient aussi que Keith était très méfiant dans les semaines menant au meurtre, qu'il avait même refusé de venir en aide à une femme qui avait cogné chez lui pour utiliser son téléphone. J'en doute très fort que Keith aurait laissé un homme adulte, un inconnu, embarquer dans sa voiture puis qu'il l'aurait ramené chez lui.
Ouais, c'est peu probable.
Oui. Aussi, Tommy Lynn agressait sexuellement ses victimes. Hélène Dardeen n'a pas été agressée. Tommy Lynn volait les items de valeur. Il n'y a eu aucun vol dans la maison des Dardeen. Les détails donnés par Tommy Lynn avaient été publiés dans la presse. Quand les enquêteurs posaient des questions que seul le tueur pouvait répondre, Tommy Lynn répondait incorrectement. Par exemple, il lui a demandé « Dans quel siège Keith avait été tiré par l'arme à feu? » Il n'a pas donné la bonne réponse. Ou « Dans quelle position Hélène avait été placée dans le lit? » Sa première réponse n'était pas la bonne, il en a donné une deuxième, c'est la bonne. C'est possible là, que, considérant le nombre de meurtres qu'il a fait, les années qui sont passées, qu'il a oublié certains détails.
Ouais.
Faut aussi garder en tête qu'il y a plusieurs raisons pourquoi un tueur, déjà derrière les barreaux, voudrait confesser des meurtres qu'il n'a pas commis. Ça peut être pour négocier sa sentence, gagner du temps avant qu'il soit mis à mort, avoir de l'attention, même juste parfois pour se négocier un repas. Ou pour avoir une sortie.
Ben oui.
Tommy Lynn Sells avait proposé aux policiers qu'ils se rendent ensemble à Ina pour qu'ils leur montrent la scène de crime. Mais ça n'a pas été possible parce que, mais t'sais, tu vois, il a essayé de se négocier une sortie. Puis c'était même pas dans le méta, là.
Non, c'est ça. Il s'essayait des affaires.
Oui, oui, absolument.
Des petites faveurs.
Oui. Ça n'a pas été possible de faire la visite sur la scène de crime parce que Tommy Lynn était déjà dans le couloir de la mort et une loi texane interdit que des prisonniers qui y sont déjà puissent aller dans un autre état parce que Tommy Lynn avait été arrêté au Texas et les meurtres avaient été en Illinois. Tommy Lynn n'a jamais été inculpé des meurtres d'Hélène, Keith, Peter et Casey Dardeen. Il a été mis à mort le 3 avril 2014 à 18h14 à l'âge de 49 ans. Encore une fois, comme je disais, c'est irrésolu. Il existe aussi des mini-théories qui ne sont pas élaborées, mais que j'ai mentionnées. Il y en a beaucoup qui pensent que le meurtre était un règlement de compte, mais pas de la bonne famille.
Oui, c'était trompé.
Ouais.
Trompé de maison.
Ouais.
Ça l'arrive, puis c'est tellement triste.
Hey, j'ose même pas imaginer.
C'est l'enfer. Puis t'imagines-tu pour la famille? Tu sais, toutes les questions qu'ils doivent se poser, ça va être l'enfer, là.
Oui.
Triste.
Ouais. Une autre mini-théorie, elle provient de la mère de Keith Dardeen, Joanne. Elle pense que quelqu'un a essayé de convaincre Keith de vendre de la drogue, qu'il aurait refusé, puis qu'il aurait été tué en premier, puis que sa femme et ses enfants auraient été tués également pour éliminer les témoins.
Tu sais, au début, on parlait aussi là, de side hustle qu'il faisait. Tu sais, il vendait les liqueurs et tout ça. Peut-être qu'il s'est essayé avec de quoi qui pourrait être plus payant, donc ouais. De la drogue, peut-être, mais
ouais,
on peut pas savoir.
Il n'aurait pas juste trouvé une petite cantine marijuana chez eux, là.
Non, effectivement.
L'histoire de la famille Dardenne est passée au Oprah Winfrey Show. Joanne Dardenne, la mère de Keith, avait amassé 3000 signatures pour que ce qui s'est passé passe à l'émission, dans le but que ce soit partagé à une plus grande échelle. Les producteurs de Oprah Winfrey ont refusé, en premier lieu, en disant que les meurtres avaient été trop brutales pour une émission qui était diffusée le jour. En 1997, ils ont fini par accepter de faire un segment sur la famille Dardenne. Malgré ses efforts, aucune piste a été recueillie.
Oh.
Qu'est-ce que t'en penses? Quelle théorie est plus probable selon toi?
Je sais pas, ça peut être trop de choses. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus. J'ai vraiment de la misère à me prononcer. Je sais vraiment pas.
Penses-tu que ça aurait pu être Tommy Lynn Sells?
Pour moi, c'est clair que c'est pas le tueur en série qu'on a parlé, parce qu'il était pas capable de donner des faits outre ce qui était public déjà. Donc pour moi, ça fait peu de sens. J'irais pour la théorie que ça soit un règlement de compte ou ce qu'il y a eu une erreur au niveau de la maison. C'est des choses qui arrivent. Mais encore là, c'est très difficile de se prononcer. J'ai de la misère à me forger une opinion, une vraie opinion là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'une erreur, peut-être, pas une erreur, mais c'est clair que les autorités misent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le fait qu'ils gardent des informations secrètes dans le but que quelqu'un s'échappe, que ça aide pas le public à peut-être faire « Ah, oh, c'est louche, telle affaire, tu sais. » Ils devraient révéler un petit peu plus d'informations sur le cas, les informations qu'ils ont recueillies, leurs pistes, peut-être pas les suspects parce que ça peut vraiment gâcher des vies, là. Peut-être donner plus d'informations parce que c'est évident qu'il y a une raison pourquoi Keith a été séparé. Peut-être que Hélène, peut-être que le responsable s'en est pris à Hélène, Peter puis Casey pendant que Keith était au travail, mais ça s'est passé la nuit. Fait que ça veut dire que la personne est entrée la nuit, mais je peux pas croire que Keith était aussi méfiant, mais qu'il barrait pas les portes la nuit. Ça reste que c'est possible, mais on dirait que ça fait pas de sens pour moi. Tu sais, il était tellement stressé de la violence qui se passait, des choses, qu'il voulait déménager, mais pas au point de barrer sa porte ou de laisser un intrus rentrer.
Ouais, c'est pas. Ça fait pas de sens.
Ça fait. J'ai de la difficulté aussi à croire qu'il y a une seule personne qui a fait ça. Un individu est entré dans la maison, qui avait toute la famille là, puis qui a pu s'en prendre à eux dans un endroit clos.
Sans signe de violence nécessairement. Ouais, tu sais, il n'y a pas rien qui était cassé tant que ça, que ce que tu m'as mentionné, tu sais.
Il n'y avait pas rien de brisé, il n'y a pas une mention de fil de téléphone de coupé. Fait que j'imagine peut-être que... Il faut qu'il y ait deux personnes. Dans tous les scénarios que j'imagine, il y a deux personnes. Ils sont rentrés deux... Il y en a un qui a dit avec le père, viens avec moi, on va aller faire un tour avec ton char. On part. Tu sais, mettons qu'il est parti avec Keith, pendant qu'un est resté avec Hélène puis Peter. Puis là, ben, il est arrivé de quoi avec Keith? Tu sais, c'était juste. Je pense pas qu'il a été séparé pour une raison donc spéciale, mais il y a quelque chose. Sûrement qu'ils ont voulu enlever la seule personne qui pouvait prendre le dessus de l'assaillant. Fait que c'est pour ça que Keith a été séparé. Parce que c'est la seule personne qui pouvait empêcher l'attaque.
Ouais.
Mais là, lui, si, mettons, sa famille, sa femme, son enfant est en otage, ben peut-être que là, il a dit « Je ferai rien, je vais te suivre. En même où tu veux, ouais. C'est fait t'emmener quelque part. »
Puis laisse-les tranquille.
Ouais, mais finalement... Mais tu sais, il n'y a pas de vol. Fait que clairement, ils ont été ciblés, par erreur peut-être, possiblement. Aussi, j'ai de la difficulté à croire qu'aucune ADN ou empreinte a été retrouvée sur les deux scènes de crime. Surtout que la personne... L'individu qui a commis les meurtres a conduit la voiture de la maison des Dardenne jusqu'à un poste de police 18 km plus loin.
Mm.
Il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas un cheveu, il n'y a pas un poil, il n'y a pas un petit peu de bave, rien. Je me demande si la femme qui avait cogné pour avoir accès au téléphone puis qui voulait entrer dans la maison quelques semaines avant les meurtres, si c'était pas une première tentative de les leurrer puis de les attaquer.
Ouais. Ça se pourrait très bien, mais pratiquement tout ce que tu m'as apporté comme information, ça se pourrait. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile.
Ben, c'est le fait que tellement pas beaucoup d'informations qu'à un moment donné, on raboute les boursos.
Mm-hmm.
Au moment de l'enregistrement, près de 35 ans se sont écoulés depuis le massacre de la famille Dardenne. Keith, Hélène, Peter et Casey sont enterrés ensemble au cimetière Graceland en Illinois. L'ami de Keith, Kevin Davis, a dit « J'étais son garçon d'honneur à leur mariage. C'étaient les deux personnes les plus gentilles que vous auriez pu rencontrer. Découvrir quelques années plus tard qu'ils avaient été brutalement assassinés et puis savoir que nous ne sommes pas prêts de résoudre cette affaire aujourd'hui, que nous l'étions au moment où ça s'est produit est vraiment troublant. » La mère de Keith, Joanne, a donné sa dernière entrevue en 2019 à l'âge de 87 ans. Elle a dit « J'ai porté Keith pendant 9 mois. Je l'ai élevé. J'ai vénéré la terre sous ses pieds. C'était un homme bon et un bon père. Je n'abandonnerai jamais. » Pendant longtemps, Joanne téléphonait à la police à tous les jours pour savoir s'il y avait du nouveau. Les policiers et les détectives ont démontré beaucoup de compréhension envers sa situation et elle a développé de beaux liens avec eux. Joanne disait prier et espérait avoir des réponses avant sa mort, puis je sais pas si elle est encore en vie aujourd'hui. À ce jour, l'affaire de la famille Dardeen est entre les mains du capitaine Bobby Wallace et c'est le quatrième à avoir ce dossier entre les mains.
Ouais, il se passe la balle.
Passe la balle de décennie en décennie.
Mm.
Et c'est ça, le cas de la famille Dardeen est encore irrésolu. Et voilà.
C'est une histoire terrible, intrigante, mais très, 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 très terrible.
Ouais.
Mm.
J'ai hâte de connaître vos théories, vos opinions par rapport à ce cas-là. Parce que clairement, Greg et moi, on est incapables de se positionner là-dessus.
Mm.
À la prochaine, les amis.
Salut tout le monde.
Bye.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.